Radio Kapi.
Oh, Kapi.
En direct de Kinshasa, il est 18h pile. Voici un nouveau journal sur Radio Okapi. Le syndicat des médecins du Congo réclame l'alignement de la prime de risque. Le paiement du deuxième trimestre de 2023 bloqué actuellement au ministère des Finances. La corporation fait remarquer que la grève observée ces jours-ci dans ce secteur depuis le mois d'août bloque la prestation de médecins. Rencontre aujourd'hui à Kinshasa entre la chef de la MONUSCO, Madame Bintou Keïta, et les femmes politiques et expertes de la société civile. Au menu, offrir un accompagnement technique et stratégique aux femmes candidates aux prochaines élections en RDC. Notre invitée, c'est la présidente de Caribou Jeunesse Nouvelle, une association à pied d'œuvre à Bukavu. Madame Jolie Kamuntu parle de la protection des femmes et des jeunes filles contre les violences basées sur le genre pendant les élections en RDC. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Madame, Messieurs, bonsoir. Au micro, Pascal Masserika, mise en onde de Jean-Claude Ossiala. Le syndicat des médecins du Congo appelle le gouvernement congolais à trouver une solution aux revendications des professionnels du secteur de la santé. Il s'agit notamment de la prime de risque, de la paye du deuxième trimestre de 2023, bloquée actuellement au ministère des Finances. C'est confiant à la presse aujourd'hui à Kinshasa. Le secrétaire exécutif de la corporation fait remarquer que la grève observée dans ce secteur depuis le mois d'août dernier bloque la prestation de médecins. Il affirme que le dialogue social est actuellement en panne suite au manque de réalisme par rapport aux engagements du gouvernement central. Docteur Juvenal Mwanda est au micro de Billy Valutumba.
En vue de la réussite de la couverture santé universelle, les Simeco demandent de restaurer la quiétude dans le secteur de la santé, d'une part, en effectuant sans plus tarder la paye complémentaire du deuxième trimestre 2023 en faveur de médecins et des autres professionnels de la santé et l'alignement à la prime de risque professionnelle suivant les effectifs convenus à Bibois et d'autre part en poursuivant la prise en charge des dossiers administratifs pendants. À tous les médecins des services publics de l'État de rester mobilisés et vigilants et de se tenir prêts à tirer toutes les conséquences qui résulteraient de l'inaction du gouvernement de la République. Pouvons-nous raisonnablement espérer la réussite de la couverture santé universelle lancée par Son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec un personnel de santé démotivé et en grève récurrente, tout en restant sensible à la souffrance de notre population et attaché au dialogue social apaisé? Le Simeco se réserve le droit d'évaluer dans les 7 prochains jours les conditions de travail que le gouvernement de la République impose actuellement aux médecins des services publics d'État et d'en tirer toutes les conséquences qui s'imposent.
À Tchikapa, pendant ces temps, les agents de la Direction Générale des Recettes du Kassai dénoncent la mauvaise gestion de cette régie financière. Dans une lettre adressée hier au gouverneur de province, ils accusent leur directeur général, Joseph Kalombo, d'avoir créé une administration parallèle pour ainsi lui permettre de minorer les recettes. En réaction, le directeur général incriminé rejette en bloc ces accusations. À Kananga, la correspondance de François Kadima.
D'après les agents de la DGRCAS, à moins d'une année seulement sous la gestion de l'actuel directeur général, cette régie a connu une faible mobilisation des recettes et la contre-performance suite à l'affectation irrégulière de cadres et agents. Dans leurs documents, ils exigent simplement la démission de Joseph Kalombo.
Nous dénonçons les affectations au poste de péage de membres de famille et des membres des partis politiques pour une période indéterminée, avec comme conséquence la minoration des recettes des péages et du guichet unique, ce qui est à la base des frustrations du personnel.
En réaction, le directeur général de la DGRCAS a dans une communication rejeté toutes ces accusations, soutenant avoir aidé la régie à réaliser plus de recettes depuis qu'il est à sa tête. Joseph Kalombo.
Pour que la DGRCAS existe, jusqu'à l'heure où nous avons pris les commandes, je peux me donner le courage de dire que je suis le meilleur. Nous n'avons pas encore atteint une année. Au premier semestre, nous sommes à 65%, au point que la province du Kassai est placée la première province de toutes les provinces de l'espace Grand Kassai.
Notons que la DGRCAS est la régie de mobilisation des recettes pour la province du Kassai. L'actuel directeur général a été nommé par le gouverneur de cette province en novembre de l'année dernière. De Kananga, François Kadima, Radio Capi.
Non loin de la Haut-Kassaï orientale, le prix du maïs a pris de l'ascenseur dans la ville de Mbujimaï. La mesurette de 3,5 kg se vend actuellement à 7 000 voire 7 500 francs congolais, alors que la même mesurette s'est vendée il y a une semaine entre 4 500 et 5 000 francs congolais. Les vendeurs et les vendeuses avancent plusieurs raisons à cela, comme l'explique Esther Dalafina.
La mesurette de maïs coûte actuellement 7 500 francs congolais dans les deux grands marchés de Mbujimaï. Écoutons les lamentations d'une femme ménagère.
Avec les enfants en train scolaire, on souffre beaucoup parce que les maïs ont monté au marché. Les mécas 8 000 à 7 000. Il n'y a pas moyen de parler parce qu'il n'y a pas l'argent pour acheter les maïs au marché. C'est monté beaucoup, c'est monté.
Les vendeuses et les acheteuses évoquent les causes qui sont actuellement à la base de cette hausse. Pour Antoinette Kaozi, la hausse est due à la période des semis.
Nous sommes maintenant au mois de septembre. C'est le mois de la semaine. L'arachide, l'haricot, le maïs et même les soja, ces produits agricoles-là, on hausse les prix. Des fois même, il y aura même rareté. Les cultivateurs cherchent la semence.
Le directeur provincial de la Fédération des entreprises du Congo appuie cette cause. Dominique Ilunga propose au gouvernement une politique d'anticipation des événements.
C'est un problème réel, mais il faut anticiper. Si aujourd'hui le service national est dans nos 5 territoires, emblâmés, cultivés, si décembre, on n'aura pas de problème.
Signalons que plusieurs tentatives avaient été prises par le gouvernement pour mettre fin à la carence de maïs dans le Kassaï oriental. Esther Ndalafina, Mbujimaï, Radio Okapi.
On en vient maintenant à l'actualité politique. Offrir un accompagnement technique et stratégique aux femmes candidates aux prochaines élections en RDC, c'est en tout cas l'essentiel d'un entretien ce mardi à Kinshasa entre les femmes politiques et les expertes de la société civile avec Madame Bintou Keïta, la chef de la MONUSCO. Objectif affiché, renforcer le taux de participation des femmes dans les institutions du pays et prévenir en même temps les formes de violence à leur égard. La coordonnatrice nationale de la Ligue des femmes de la Convention des démocrates et travaillistes affiliés unifiés a salué l'initiative de la mission onusienne. Madame Maggie Ebeka Maluka le dit à merveille à Sani.
Il était question qu'on puisse se mettre autour de la table, faire l'état des lieux de la situation de la femme congolaise quant à la question de la participation politique, paix et sécurité. Et en cela, il est assorti deux points. Le premier point a concerné les défis. Par là, on nous a demandé d'identifier les difficultés que rencontre la femme congolaise et la femme candidate aux élections. Et deuxième point n'a consisté que sur les stratégies. Comment transformer la femme candidate à une femme élue aux élections de 2023. En cela, il faut ajouter aussi les stratégies que la femme candidate doit avoir pour mettre en place. En cela, nous ajoutons aussi la question de la sécurité, parce qu'il faut que cette femme-là, congolaise qui va aller aux élections, soit sécurisée. Et puis, on doit voir dans quelle manière éradiquer toutes les formes de violences basées sur le genre, des pesanteurs coutumière ou traditionnelle qui fait en sorte que cette femme-là, bien qu'elle a des ambitions, elle a la vision, mais ne participe pas totalement parce que quelque part, ces pesanteurs-là la tirent bas.
L'actualité, c'est aussi l'ouverture ce mardi à New York aux États-Unis d'Amérique de la 78e Assemblée générale des Nations unies. En prélude à cette rencontre annuelle, les dirigeants du monde ont pris hier lundi l'engagement de construire un monde durable, inclusif et prospère d'ici 2030. À cette occasion, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a affirmé que les objectifs de développement durable adoptés voici 8 ans ont besoin actuellement d'un plan de sauvetage. Des précisions dans ce récit de notre envoyé spécial Alain Rongmonchige, rendu ici par Babel Pongomasimango.
En outre, la déclaration appelle à une action immédiate pour mettre en œuvre les mesures de relance des ODD proposées par le secrétaire général de l'ONU, qui plaide pour une augmentation massive du financement pour la réalisation de ces objectifs à hauteur de 500 milliards de dollars américains chaque année. Elle témoigne également du ferme soutien de tous les pays à une réforme indispensable de l'architecture financière internationale afin de mieux refléter l'économie mondiale d'aujourd'hui. Selon Antonio Guterres, il y a 6 domaines cruciaux où des transitions urgentes sont nécessaires: agir contre la faim, enfin, accélérer la transition vers les énergies renouvelables, partager plus largement les avantages et les possibilités du numérique, investir dans les systèmes éducatifs pour offrir une éducation de qualité aux enfants, créer de nouveaux emplois décents et élargir la protection sociale, et enfin, cesser la guerre contre la nature. Pour rappel, les objectifs de développement durable définissent les 7 priorités pour un développement socialement équitable sur d'un point de vue environnemental, économiquement prospère, inclusif et prévisible à l'horizon 2030. Ils ont été adoptés en septembre 2015 par l'ONU dans le cadre de l'agenda 2030.
Autre nouvelle sur Radio Capi ce soir. Plus de 7 millions de personnes ont besoin actuellement d'assistance urgente dans les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri. C'est ce qu'indique en tout cas le récent rapport du Bureau des coordinations d'aide humanitaire des Nations Unies. OCHA attend intensifier ses opérations humanitaires dans ces trois provinces de l'Est de la RDC. Explication de Bernard Danyangi.
Dans le rapport parvenu ce mardi à Radio Capi, OCHA parle notamment de 5,8 millions de personnes en besoin qui sont des déplacés à la suite des attaques et aux affrontements armés. Parmi elles, plus d'un million et demi qui se sont déplacés seulement depuis le début de cette année 2023. Pendant ce temps, au moins 6,7 millions de personnes font face à l'insécurité alimentaire, dont plus de 256 000 enfants malnutris, avec 207 organisations qui exécutent 481 projets humanitaires, principalement dans le secteur de la protection, la santé, la sécurité alimentaire et l'eau, hygiène et assainissement. La communauté humanitaire intensifie ses opérations dans les trois provinces, affirme ce rapport. Pour la province du Nord Kivu, au 31 août 2023 courant, environ 110 000 personnes déplacées et familles d'accueil ont reçu une assistance alimentaire dans la zone de santé d'Oicha, territoire de Beni. Pendant ce temps, l'Union européenne a aussi établi un pont aérien pour acheminer plus de 180 tonnes de vivres et non-vivres à Goma en appui à cette intensification des opérations humanitaires dans les trois provinces, précise OCHA. Goma, Bernard Dinyangi, Radio Capi.
Et puis, le général-major Peter Chirimwami Nkuba est le nouveau gouverneur intérimaire du Nord Kivu. Il remplace à ce poste le lieutenant-général Constant Dima Kouba, rappelé ici à Kinshasa. La nouvelle est confirmée aujourd'hui par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, qui séjourne en mission à Goma. Peter Kazadi a affirmé que ce changement à la tête du Nord Kivu a été obtenu sur instruction du président Félix Tshisekedi Tshilombo. On l'écoute.
Sur instruction du chef de l'État, le vice-premier ministre de la Défense a pris un arrêté portant nomination d'un gouverneur intérimaire. Comme vous le savez, nous sommes dans un état de siège qui a ses exigences. Le gouverneur militaire étant appelé à Kinshasa en concertation, il n'est pas bon qu'il reste un vide, d'autant plus que le gouverneur a le rôle de commandant des opérations militaires qui se passent ici. Voilà pourquoi le commandant suprême a demandé au vice-premier ministre de la Défense de pourvoir à ce vide en désignant un intérimaire. C'est le général Chirimwami.
Notez que le général-major Peter Chirimwami Nkuba, qui est entré en fonction aujourd'hui, est arrivé le week-end à Goma. Unissons-nous pour combattre les rebelles ougandais de l'ADF et des miliciens Maïmaï. Appel lancé hier lundi après-midi aux conducteurs de moto-taxi du territoire de Mambasa par le commandant second de la 31e brigade chargée des opérations. Le colonel Jean-David Mwamba les invite à relayer ce message afin de mettre l'ennemi hors d'état de nuire. Il a été joint par Ezekiel Mouzalia.
Mambasa, c'est notre maison. Même s'il y a des problèmes, nous devons chercher des solutions et de mettre du feu. Trouver que c'était ça la bonne solution. Nous sommes en train de mettre toutes les batteries en marche pour éviter que la population soit désorientée et trouve que l'armée devient son ennemi. L'ennemi commun, ce sont les ADF. L'ennemi commun, ce sont des Maïmaï, tous ceux-là qui prennent les armes de manière illégale et qui mettent la population en désolation. Ce sont ceux-là qui sont nos ennemis. Et nous avons eu plein de causes. La situation est en train de... La tension est en train de se baisser. En tant que jeunes, en tant que motards, ils sont les premiers à se mouvoir de gauche à droite, du matin jusqu'au soir, en train de sillonner, faire le travail en déplacement. Donc, ils peuvent facilement avoir l'information, partager avec l'armée et la police. Et nous attendons qu'ils véhiculent positivement ce message avec d'autres groupes de motards.
Actualité internationale. Au Mali, différents partis politiques appellent au dialogue pour sauver l'accord de paix qui a été signé en 2015, alors que les forces armées FAMA et les combattants du cadre stratégique permanent se sont affrontés à plusieurs reprises dans le nord du pays depuis la fin du mois d'août. Le domicile de la journaliste Ariane Lévrieux, qui collabore étroitement avec plusieurs médias dont RFI et qui fut à l'origine des révélations d'un possible détournement de l'aide militaire française en Égypte, a été perquisitionnée aujourd'hui et elle a été placée en garde à vue à Paris. Le média Disclose, qui avait publié son article à l'époque, a dévoilé l'information. Et puis l'Assemblée générale des Nations Unies attend l'arrivée du président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui montera pour la première fois à la tribune face à une communauté internationale fragmentée et ébranlée par des crises multiformes, notamment l'invasion de son pays par la Russie. Les deux chefs d'État vont également se rencontrer, une première, alors que Brasilia n'a jamais imposé des sanctions financières à la Russie.
L'invité.
Notre invité, c'est la présidente de Caribou Jeunesse Nouvelle, une association à pied d'œuvre à Bukavu, Sud-Kivu. Madame Jolie Kamuntu parle des mesures pour mettre les femmes et les jeunes filles à l'abri des violences basées sur le genre pendant les élections en RDC et s'entretient avec Rachel Kessembangou.
Madame Kamuntu, bonjour.
Bonjour, Radio Okapi.
Parlez-nous de cette activité. Dans quel cadre vous l'organisez ?
Cette activité, c'est un atelier de présentation et de plaidoyer. Nous voulons présenter les résultats d'une étude que nous venons de mener sur les violences basées sur les genres que les femmes ont connues pendant la révision du fichier électoral. Une activité qui rentre dans le cadre du projet dénommé « Campagne d'éducation civique pour la participation des femmes et des jeunes filles et la lutte contre les violences basées sur les genres en période électorale au Sud Kivu ».
Une étude sur les violences basées sur les genres en période électorale menée pendant combien de temps, sur quelle durée et pour quels résultats aujourd'hui?
Cette étude a porté sur la ville de Bukavu avec un échantillon des trois communes, Ibanda, Bagira et Kadutu. Et elle a duré 2 mois, de juin à août 2023. Et parce qu'on avait attendu que l'opération se termine, que tous les résultats soient compilés et que la CENI a produit son rapport pour que nous aussi on descende sur le terrain voir si on peut trouver les données par rapport aux violences que les femmes ont connues. Et l'étude que nous avons menée dans les trois communes de la ville de Bukavu, c'était également pour prévenir, pour que lors des phases électorales qui arrivent, que ces mêmes violences qu'on a constatées se répètent encore. Mais c'est également c'était pour nous aider à amener les parties prenantes au processus électoral. Là, je cite la CENI, la police nationale congolaise, le gouvernement, à prendre des mesures qui s'imposent pour que les femmes et les jeunes filles soient suffisamment protégées pendant la période électorale.
Quelles sont, entre autres, les violences auxquelles les femmes font face pendant la période électorale, selon vos études ?
D'après les résultats qui sont présentés, nous constatons que pendant l'enrôlement des électeurs, beaucoup de femmes avaient subi des violences. Et ces violences sont de différentes formes. Il y en a qui ont été bousculées devant les bureaux de vote. Et on ne distinguait pas les femmes enceintes d'autres catégories de gens. Pourtant, ce sont des femmes qui méritent une attention particulière. On ne distinguait pas les vieilles femmes aussi. Pourtant, on nous disait que c'est elles qui devaient être priorisées vers les bureaux de vote. Il y avait aussi des exactions que commettaient les forces de l'ordre, la police notamment, qui a été citée comme étant celle qui soudoyait, celle qui demandait de l'argent, celle qui monnayait l'entrée dans les bureaux de vote. Et connaissant le pouvoir d'achat des femmes, pour nous c'est une violence parce que les femmes qui portent tous les jours de leur famille sur la tête n'étaient pas capables souvent de trouver 5 000 francs, 3 000 francs avant d'entrer dans les bureaux de vote. Mais également, on a senti qu'il y avait des injures, il y avait des bousculades, on a vu des femmes qui ont été jetées dehors comme des feuilles de bananes qui tombaient, qui étaient déshabillées, et c'est des choses qui ne sont pas vraiment dignes pour les femmes. Et nous, on a pensé qu'on devait révéler ça pour que des mesures soient prises pendant qu'il est encore temps et que ça n'ait pas de répercussions sur le reste du processus électoral, parce que vous savez, les conséquences à tout ça, c'est que les femmes risquent de se décourager, et là c'est l'électorat qui va diminuer. toutes ces candidates qui comptent sur leurs compères femmes, elles vont échouer carrément parce que les femmes seront découragées à cause de ces violences qu'elles sont en train de subir. Et nous, on a pensé qu'il est encore temps, pendant qu'on y est, que l'on prenne des mesures pour que les femmes se sentent à l'aise et participent activement au processus électoral.
Les femmes et les filles que vous réunissez aujourd'hui proviennent d'où ? Qui sont-elles ?
Aujourd'hui, nous allons voulu révéler les résultats de cette étude à 30 participants. Il y a les organisations des femmes de la ville de Bukavu, parce que c'est là que l'étude a été menée. Il y a les organisations des jeunes, il y a les acteurs sociaux, il y a même les partis politiques, parce que ce sont des parties prenantes de la majorité et de l'opposition. Il y a également les médias, parce que c'est eux qui relaient l'information. Il y a aussi la Commission électorale nationale indépendante et la police nationale congolaise, c'est eux qui sont réunis dans cette salle.
Qu'est-ce que vous attendez comme résultat après cette journée de vulgarisation?
Nous voulons qu'après cette journée, les parties prenantes signent un acte d'engagement pour que nous sachions comment faire le suivi des engagements qu'ils auront pris. Nous voulons également qu'au cours de ces processus électoraux, la promotion et la protection des droits des femmes soient une priorité, que ce soit au sein des partis politiques, que ce soit au sein de la CENI et au sein de la police nationale congolaise. Mais également, nous voulons qu'à travers cet atelier d'aujourd'hui de présentation, que les autres étapes du processus électorale qui reste soit des étapes à peser, des étapes où les femmes vont se sentir à l'aise parce que c'est une discrimination positive et nous savons tous que les femmes représentent plus de 50% de la population électrice et donc on n'a pas intérêt à ce que les femmes soient découragées, à ce que les femmes ne participent pas, sinon tous les autres vont récolter des conséquences néfastes.
Je vous remercie.
Merci.
C'était l'invité de Radio Okapi, la présidente de Caribou Jeunesse Nouvelle, une association à pied d'œuvre à Bukavu, au Sud Kivu. Madame Jolie Kamuntu, interviewée à Bukavu par Rachel Kiese Mbangu. Et c'est la fin de cette édition d'information sur Radio Okapi. Merci d'avoir écouté. Merci à Blaise Shindani Kambala qui l'a coordonné sous la supervision éditoriale de Martin Sebujangwe.